on a l'impression d'avoir 15 ans, de recommencer notre carrière.
Moi, c'est cet ami-là que j'ai perdu rapidement. Ça m'a vraiment troublé.
J'ai une tête dure, puis moi, je me dis, j'ai ma place, mais c'est à moi de la faire.
Et moi, donner de soi, de moi aux autres, puis à mes enfants, j'adore ça, ça me remplit de bonheur.
J'ai plus de filtre. Je dis tout ce que je pense, sans filtre.
On aime ça, les artistes, les vedettes qui disent tout ce qu'elles pensent. Étienne Boulay est avec nous.
Salut, Isabelle.
Merci d'être là, Étienne.
Ça fait plaisir, merci d'inviter.
Vraiment ravi. Et toi aussi, t'es un gars qui dit beaucoup de choses sur ta vie. Encore cette semaine, j'ai été très touchée par ce que t'as écrit sur tes réseaux sociaux. Tu parlais du fait que t'étais sobre aujourd'hui,
oui.
T'étais heureux, bravo,
merci.
Troisième bébé,
merci, oui.
Nouveau papa, tu parles de la paternité, tu te livres beaucoup.
Ouais, j'essaie d'être le plus authentique possible. Évidemment, je réalise que ce que je publie, que ce que je dis publiquement peut être repris en partie, fait que j'essaie quand même de faire attention puis de le faire de façon... si on veut, intelligente, mais je trouve ça important d'essayer de rejoindre les gens avec du vrai. Tu sais, on est dans une drôle de période, là, particulièrement sur les réseaux sociaux, où on est dans le paraître beaucoup, puis je veux peut-être essayer d'aller à contre-courant, puis je trouve que c'est moins forçant d'être soi-même que d'essayer de prétendre être quelque chose, quelqu'un d'autre. En fait.
C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que t'as reçu des mauvais commentaires, parfois, de
gens? Ah, mais j'en reçois tout le temps.
Parce que, sincèrement, quand t'écris, je peux pas croire que quelqu'un va te...
Ben, en fait,
va t'insulter ou va réagir négativement, là.
C'est minime, pour vrai. Puis j'essaie de pas m'accrocher à ce monde-là, mais sur les réseaux sociaux, de toute façon, dans la vie en général, on fera jamais l'unanimité. Mais des tatas, t'en as dans tous les domaines. Puis c'est pas parce que t'es pas d'accord avec moi que t'es tata, mais souvent, c'est la façon, les réseaux sociaux font en sorte que...
C'est le ton.
Exact. Puis on peut l'interpréter comme on veut aussi, mais l'écran crée une espèce de distance où les gens sentent qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent.
Mais écoute, c'est tellement fascinant que des fois, tu as envie de dire, viens me le dire dans ma face, parce que la façon dont tu l'écris, tu es en train de me frapper. Est-ce que tu me frapperais si j'étais à côté de toi?
À la limite,
c'est fou,
je veux pas rentrer dans le débat gars-filles, mais c'est plus facile d'être un gars, ces réseaux sociaux. Je trouve que les filles sont autrement plus critiquées, que ce soit par une autre femme ou par les gars qu'on parle, tu sais, le style vestimentaire, le look, la critique est tellement facile. Puis je pense à ma blonde, Maïka Desnoyers, qui est dans le public aussi. Puis elle, les commentaires qu'elle reçoit, je peux pas croire que des gens se permettent d'émettre ça. Tu sais, même...
As-tu déjà répondu à quelqu'un qui l'avait...
Moi, là, je m'étais fait avertir par... en fait, quand elle a commencé Vendre ou rénover à Canal Vie, c'était la nouvelle tête d'affiche, une belle grande blonde qui arrive, qui s'exprime bien. Puis elle avait commencé à recevoir des commentaires désobligeants. Puis moi, protecteur, je répondais aux gens sous les commentaires de la page de Canal Vie. On s'entend que bon, dans la catégorie, c'est pas super professionnel, j'étais chef de file. Et j'ai reçu un appel justement de l'équipe de production qui a fait « Étienne, c'est super cute que tu veux défendre ta blonde, mais laisse-nous s'en occuper. » Tu sais,
qu'est-ce que tu mettais, genre?
Ben, j'essaie de répondre intelligemment, parce que des gens qui vont juste cracher des insultes ou vomir des bêtises, quand tu leur réponds avec une espèce de logique, mais souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils effacent leurs commentaires parce qu'ils sont pas qu'ils sont pas de calibre à répondre à ce niveau-là, mais c'est qu'ils réalisent à quel point c'est de la folie. Tu sais, fait que ma mère dirait, Étienne, perd pas d'énergie à répondre aux gens, mais des fois, c'est quand même un peu satisfaisant.
Oui, tout à fait. Puis il faut pas accepter n'importe quoi non plus.
Ben non.
T'as publié ta biographie, Le parcours d'un battant.
Oui.
T'es passé, les gens le savent aujourd'hui, parce que tu le dis, on parlait du fait que t'avais écrit que t'étais sobre et heureux aujourd'hui. Ça a été difficile pour toi. J'ai vu le documentaire, justement, qui a été tiré, qui a été fait par Marc-André Chabot,
le réalisateur. Même aussi l'auteur,
qui a écrit le livre avec toi et qui... Moi, je ne savais pas tout ça de toi.
Ouais.
Je ne savais pas tout ça de toi. C'est très touchant, ton histoire, Étienne, parce que tu es un athlète professionnel, joueur des Alouettes, qui a scoré depuis tout petit.
Ouais.
Vraiment, tu es un winner.
Il n'y a rien qui laissait présager que j'allais avoir des enjeux de santé mentale puis de dépendance comme ça. Puis la raison... Tu sais, je veux faire une petite parenthèse, parler de Marc-André. Là. Ce projet-là est parti de l'idée que, OK, j'ai une histoire... je suis un homme, je suis un joueur de foot dans un monde qui est quand même un peu beaucoup d'orgueil, un peu macho. Je vais être le gars qui va le parler, qui va véhiculer ce message-là.
Qui va l'incarner.
Ouais, puis ça va m'aider parce que ça va être un processus thérapeutique de repasser à travers ça, puis ça va aider du monde, puis je vais me mettre dans cette position vulnérable-là, mais pas à n'importe quel prix. C'est pour ça que c'était Marc-André qui le faisait, parce que Marc-André a travaillé avec moi sur Les Testeurs, ma première expérience télé.
Ouais.
Il m'a vu comme joueur de foot, il m'a vu quand ça allait moins bien aussi, puis que je me battais avec les chutes et les rechutes. Puis il me voit maintenant, puis il est resté à travers ces tempêtes-là. Fait que il y avait personne qui avait une meilleure sensibilité et le talent à la fois de réalisateur et d'auteur pour mener ce projet-là. Fait que c'est pour ça que je l'ai fait avec lui puis que je me suis senti en confiance de le faire.
T'sais. Raconte à ceux qui n'ont pas suivi rapidement. Là, que...
ben, écoute, j'ai toujours été quelqu'un d'excessif. J'étais un petit blanc, 5 pieds 9, qui a voulu jouer aux États-Unis au football. J'ai été repêché par les Alouettes. J'ai eu une courte période avec les Jets de New York dans la NFL. Gagné 3 Coupes Grey. Et cette même personnalité excessive-là, ce trait de performance-là a contribué en après-carrière à m'auto-détruire, à consommer de la drogue, à boire. Puis ça a été, je me suis battu avec ça pendant 6 ans où il y avait des périodes plus faciles, des périodes plus difficiles. J'ai écorché beaucoup de monde au passage. Évidemment, les personnes que tu aimes le plus, c'est ceux que tu blesses le plus pendant ces problèmes-là. J'ai fait 3 thérapies. Puis finalement, ben là, j'approche de 3 ans de sobriété maintenant. Donc, ça a été un processus d'essai et erreur. Puis j'essaie de la partager, mon histoire, parce qu'elle fait partie de qui je suis. Puis comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, il y a un petit côté égoïste où, en parlant de ça avec toi aujourd'hui, ben je vais retourner à la maison tantôt en me rappelant d'où je viens puis où je veux pas retourner.
Ouais. Tu te souviens comment tu te sentais?
Ah oui, absolument. T'sais, puis c'est drôle, hein? Plus il y a de la distance entre ma dernière rechute puis aujourd'hui... j'oublie pas. En fait, j'essaie de me rappeler ça à tous les jours parce que le jour où je vais l'oublier, c'est le jour où je me mets en danger. Tu sais, quand on dit c'est un jour à la fois, 24 heures à la fois, mais moi, le pattern dans lequel je suis, de un, je suis pas tout seul là-dedans, fait que je me suis collé sur d'autres gens qui sont comme moi, qui vivent ça, mais je me rappelle d'où je viens. Je me rappelle qu'aujourd'hui, ma vie va mieux et que c'est grâce à l'abstinence et à la sobriété. Fait qu'à partir du moment où je suis capable de nourrir ces deux côtés-là, mais je sais que je m'en vais dans la bonne direction.
Parce que toi, ne serait-ce que être avec des gens, par exemple, qui boivent de l'alcool, ça serait
pendant,
une tentation, ça serait difficile.
Pendant les 6-8 premiers mois, je me suis complètement isolé. Puis pour moi, ça me faisait mal, ça aussi. Tu sais, je regardais, c'est niaiseux, là, mais... Même encore, des fois, aujourd'hui, je vais regarder les réseaux sociaux, les Facebook, puis là, j'ai des amis qui ont une soirée, une sortie dans un resto en ville qui boivent, puis j'ai une petite jalousie.
Tout le monde boit.
Ben oui, mais j'ai pas soif. T'sais. Fait que rapidement, j'ai réussi à me ramener puis faire comme, moi, là, j'avais plus de fun là-dedans. Tu sais, la dernière fois que j'ai eu du plaisir à consommer, ça doit faire au-dessus de 10 ans. Tu sais, fait que ça a comme pas de bon sens de penser comme ça, mais... je suis chanceux parce que un de mes traits de personnalité aussi, c'est que je suis un gars de party, je suis un gars de gang. J'aime ça être entouré d'amis. J'aime ça avoir une vie sociale. Et ça fait en sorte que je dois aussi nourrir ça intelligemment. Donc, ça va m'arriver de sortir au resto en ville. Des fois, je vais sortir, je vais accompagner des amis dans des bars.
Tu bois de l'eau?
De l'eau. Ah ouais. Ils me donnent des shooters de jus d'orange. Mais en fait, c'est...
Mais eux, au fur et à mesure de la soirée, tu vas les voir changer.
Ouais, je ne vais pas jusqu'à 3 heures du matin.
C'est ça.
Souvent, c'est drôle parce que dealer avec des gens en boisson quand toi, tu es à jeun, déjà là, c'est un irritant.
Ah, vraiment, oui.
Mais je vais rester...
T'es trop niaiseux, tes amis, soudainement.
Et tabarouette. Puis là, je me dis, c'était-tu de ça que j'avais l'air? Puis je suis bien, bien content. Surtout, la période où j'ai le plus de gratitude, c'est en me réveillant le matin. Je me dis comme, de un, je me souviens de tout ce que j'ai dit et fait hier.
Et j'ai pas mal à la tête.
c'est
ça. Ouais. C'est fou parce que dans le documentaire, ce qui m'a frappé, c'est quand on passe à côté des grands moments de notre vie puis qu'on se réveille le lendemain ou un an plus tard en se disant, j'étais vraiment pas là à ce moment-là. Puis toi, des grands moments sportifs, je pensais même la Coupe Grey. Quoi exactement? C'est quoi, je l'ai vu il y a un petit moment, ton docu, mais ça m'a fait frapper de voir, c'était un grand moment où tu disais, tu le dis toi-même parce que c'est toi qui fais la narration du docu, c'est vraiment bien fait, où tu dis, à ce moment-là même,
ma vie s'écroule.
J'étais pas moi-même.
J'étais pas en consommation à ce moment-là, mais je me battais avec ça. Puis le foot, en fait, jusqu'à la toute fin de ma carrière, puis ma dernière Coupe Grey en 2012 à Toronto, m'a gardé en un morceau. Parce que le foot étant formaté de cette façon-là, tu as un match par semaine, la fin de semaine. Donc, toute la semaine, tu as une espèce de build-up, un crescendo à la fois physique et émotif qui va faire en sorte que tu te prépares pour aller, entre guillemets, au combat. Mm-hmm. Alors, tu as un objectif à court terme qui est dans 4, 5, 6 jours, un match à jouer. Puis ensuite de ça, tu récupères. Puis ensuite de ça, tu te remets. Encore une fois, 7 jours plus tard, tu as un autre match à jouer. Donc, ça, cette structure-là faisait en sorte que, oui, des fois, je l'échappais après les matchs de foot, mais rapidement, je me ramenais parce qu'il fallait que je performe.
Parce que tu as un cadre, finalement.
Exact. Mais
rigide,
ma dernière... Mon dernier match a été joué quand le sifflet a été sifflé. Et évidemment qu'on a gagné la Coupe Grey. Bien, ce qui vient avec la Coupe Grey, c'est les festivités. Ouais. Puis je le sentais, j'avais tellement dû travailler plus fort qu'avant pour terminer la saison en un morceau que je savais que les chances étaient très, très minces que je rejoue au foot encore, à moins que j'amène un changement drastique à mon style de vie. Puis j'étais pas prêt à faire ça parce que j'étais pris dans l'engrenage d'avoir le goût de consommer. C'était comme un... The perfect storm, dans le sens où je me divorçais en même temps. Puis pour les gens qui se sont déjà séparés puis divorcés, on sait que ça affecte toutes les sphères de ta vie. J'étais l'accumulation des commotions cérébrales, l'ascension de mes problèmes de consommation, tout ça mis ensemble a fait en sorte que quand je suis revenu à Montréal après les festivités de la Coupe Grey, j'étais plus le même. Ouais, je suis parti sur une pente descendante assez intense.
T'es parti, ça a pris du temps avant que tu reviennes.
Ben, puis, oui, puis c'était, tu sais, c'est... Avec le recul, évidemment, on ne le sait pas pendant ce temps-là, mais c'est de la fuite. Tu sais, c'est que tu as tellement mal physiquement, émotivement pour le divorce. C'est ça que de boire, de consommer, vient panser le bobo. Puis pendant un bout de temps, ben, tu es bien là-dedans. Puis à un moment donné, même quand tu n'es plus bien, je me souviens, là, à la fin, j'avais plus de fun à consommer. Aucun fun. Mais ce qui me plaisait là-dedans, c'est que je mettais mon cerveau à off pendant une couple d'heures. Mais je paranoïais, j'agonisais physiquement, je suais, j'étais pas bien, mal au ventre. Puis on me demandait, Étienne, pourquoi tu te sacres une volée? Ouais. Puis je me disais, mais pendant une couple d'heures, même si physiquement je vais pas bien, je pense plus à ce qui me blesse. T'sais. Fait que le vrai courage, finalement, c'est pas de se péter à la face pour essayer d'oublier, c'est d'essayer de gérer tes émotions à jeun. Ça fait mal. Mais ça, c'est courageux. Puis c'est la seule façon, en fait, d'être capable de gratter le bobo à 100% puis de le tasser après.
Est-ce que tu es conscient que des fois, si tu vas moins bien, tu pourrais rechuter?
Absolument. Absolument. Puis, en fait, je vais même aller plus loin. Je dois me rappeler ce danger-là à tous les jours. C'est quand tu commences à te penser trop bon puis au-dessus de tes affaires que tu rechutes. Puis, tu sais, ça m'amène à parler de la publication que j'ai publiée il y a quelques jours sur le fait que j'ai admis que j'avais déjà eu des rechutes. C'était connu, mais tu sais, je l'ai dit peut-être plus clairement, mais cette période de rechute-là, pour moi, est une expérience extraordinaire. Alors que pendant longtemps, je l'ai vu comme quelque chose qui me faisait honte. J'avais honte de ça, je vivais de la culpabilité. Alors que maintenant, je me suis dit, je vais utiliser cette période, de marde-là pour faire quelque chose de positif avec, c'est-à-dire me rappeler que je me suis déjà réessayé. J'avais passé un an et quelques, presque un an et demi d'abstinence, puis je m'étais dit, je suis guéri. Je pense que je vais être capable. Puis évidemment, j'ai eu la preuve que je ne l'étais pas. Fait que moi, j'ai l'avantage d'avoir rechuté. Je le vois comme un avantage maintenant, parce que je sais que ça ne fonctionnera pas si je me réessaye.
Étienne, t'es fabuleux. Bouge pas. on revient après la pause. Étienne Boulay est avec nous en ce vendredi. Je suis sûre que ça vous parle, en particulier à vous, les gars, qui peut-être les hommes vivent ce genre de choses. Vous pouvez nous appeler aussi, dire un petit mot à Étienne, des fois une petite table sur l'épaule, juste lui dire comment il est formidable et inspirant.
Vous êtes fin.
514-790-9850. Il est parfait, c'est plate. Mais non, tu viens de nous dire qu'on peut justement ne pas être parfait et être un gars super. 1-866-790-9850. Il n'y a pas juste moi qui trouve qu'Étienne Boulay est formidable. Nos lignes sont pleines. On va commencer vite, vite. Alors, les gars, parlez pas trop longtemps parce que je voudrais qu'il y en ait plusieurs qui parlent. Michael, on commence avec vous.
Bonjour. Quand j'étais plus jeune, Étienne est venu faire une conférence à mon école secondaire. D'ailleurs, bonjour, Étienne.
Salut, Michael.
Tu m'as beaucoup motivé à finir mes études puis à continuer dans ce droit chemin-là. Fait que je voulais te remercier beaucoup.
Hey, t'es donc bien fait. T'as quel âge, Michael? T'as une voix d'adulte?
J'ai 24 ans.
Et tu me rajeunis pas, mon homme. Mais écoute, t'es vraiment à fin de me dire ça. C'est drôle, hein, parce que des fois, on va faire des conférences, puis on va parler aux gens, puis on ne sait pas si ça a un impact. Mais tu me mets un gros sourire au visage aujourd'hui.
Merci beaucoup, Mickaël.
Merci.
Jacques, bonjour.
Bonjour, Isabelle. Et bonjour, Étienne.
Salut, Jacques.
Salut. Je vais juste te dire que, un gros bravo pour tout ce que tu as traversé. Puis ta sobriété. Moi aussi, mais je suis allé en thérapie comme toi, puis je suis sobre de jeu depuis 20 mois.
Wow!
C'était une belle inspiration.
Wow. Hey, bravo, Jacques!
Ton message tantôt, surtout, je veux juste noter ton expérience de la rechute comme positive, ce que tu as nommé, moi, ça me fait du bien. Fait que ce qui était négatif, on le transforme en positif, un jour à la fois. Puis, t'es passé dans mon cœur comme partisan. Puis, des alouettes. Puis maintenant, ben, t'es un autre modèle, une autre source d'inspiration.
Ah, t'es bien fin. Merci, Jacques. Puis, je te souhaite bonne chance. Puis, t'as raison. Dans chaque situation négative, il y a une opportunité cachée de virer ça de façon positive. Puis, surtout de repartir plus intelligemment avec, tu sais, une expérience de plus dans notre sac à dos.
On a Steve avec nous. Bonjour, Steve.
Salut, Étienne.
Salut, Steve. Ça va bien, toi?
Oui, ça va très bien. Écoute, j'ai un sujet, c'est sûr que ça pourrait s'étirer très longtemps. Je vais essayer de faire la question très courte. Mais quand on a quelqu'un dans notre famille immédiate qui a un problème d'alcool, puis que ça commence à être rendu au point que même si lui a l'impression que c'est caché, c'est clairement plus caché, c'est quoi que tu suggères?
Ben, écoute,
c'est une très bonne question.
Je comprends
aussi
très bien ta question. Puis, d'abord, avant tout, je veux dire que je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas un expert, mais l'affaire la plus difficile dans la vie, là, c'est d'essayer d'aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider. Et, tu sais, j'ai lâché un petit rire parce que je me souviens quand je consommais que je pensais être super incognito et subtil, puis il n'y a rien qui paraît plus que ça là, quand ça ne va pas. Fait que je suis conscient que tu dois t'inquiéter pour cette personne-là dont tu fais mention. Puis l'affaire, je vais citer un ami qui s'appelle Jean-Marie Lapointe. Et c'est cette approche-là que je trouve difficile. Puis c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour les thérapeutes. C'est d'essayer d'aider les gens, leur présenter des outils en gardant une espèce de détachement. Parce que cette personne-là va devoir se planter pour le réaliser. Puis si tu la prends par la main, puis tu fais toutes les étapes pour elle, ça ne fonctionnera pas. Fait que Jean-Marie, ce qu'il m'a dit, c'est qu'Étienne, tu devrais retourner en thérapie. Puis j'avais dit non, je vais être capable. Je l'ai déjà fait deux, c'est ça. Puis il m'avait regardé dans les yeux, puis il m'avait dit, je suis pas d'accord avec toi, mais quand tu seras prêt, tu m'appelleras. Puis ça m'avait insulté au début. Puis finalement, il avait raison, puis parce que c'est la personne que j'ai appelée quand j'étais prêt. Fait que c'est se rendre disponible, offrir ce qu'on pense sont des bonnes solutions, montrer des outils.
Dire ensuite, la vérité. Donc,
dire la vérité.
Est-ce qu'on dit... Parce que tu savais, comme la question de Steve, il y a Amélie qui me la pose. Comment aider quelqu'un qui consomme et qui pense qu'il a tout sous contrôle, que tout va
tu
bien?
Tu lui dis, regarde, je te regarde aller, là. Puis j'ai l'impression que ça va pas bien, puis moi, je pense que tu consommes. Non, parfait, je te crois pas. Je te crois pas en tout. Fait que quand tu seras prêt, viens me voir. Mais tu sais, d'ici là, j'ai des solutions pour toi, mais tu sais, viens pas me mentir. Puis encore une fois, là, ça, c'est Étienne qui parle. Puis j'ai pas la réponse absolue. Là.
Merci beaucoup. C'est fou comme... Écoute, j'ai plein de courriels de gens là, qui disent à quel point ton exemple
vous êtes
peut
fin,
changer
mais
la
en fait,
vie de plusieurs personnes.
Puis moi, je fais ça en équipe. Tu sais, c'est bon, bravo Étienne. Ouais, encore une fois, ça m'aide moi, mais... Je suis pas tout seul là-dedans. J'ai la chance d'avoir un réseau, une famille, des amis proches, des agents qui m'avaient aidé beaucoup. Tu sais, fait que ça s'est fait en gang, puis ça continue de se faire en gang.
Parce que ça peut être une descente aux enfers fatale.
Tu sais, moi, je trouve que la pente à remonter était difficile dans le sens où c'était public, mais il y en a qui partent avec une longueur de retard de plus. Mais tout se fait. J'ai vu des histoires miraculeuses de gens qui se reprennent en main. Alors, tout est possible.
Étienne Boulay, merci beaucoup
d'avoir
pris le temps de venir nous voir. Je rappelle que, oui, tu fais partie de l'équipe de l'émission matinale à Rythme FM. Tu es dans Les naufragés de l'amour. Il y a le documentaire Boulay, Le parcours d'un battant. Allez regarder ça. Puis bien sûr, son livre, Le parcours d'un battant, écrit par Marc-André Chabot. Merci beaucoup,
Étienne.
Bon week-end à tout le monde.